Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, faut-il faire dérailler le modèle Deliveroo ? Tout commence dans un open space de 400 mètres carrés en plein marais à Paris, baby-foot, panier de fruits, canapé, cafétéria. Je suis là pour une réunion d'information pour devenir livreur à vélo chez Frishti, la nouvelle start-up de livraison de repas. Avec moi, une vingtaine de mecs de mon âge, entre 20 et 35 ans, 10 noirs, 7 marrons, 3 blancs. De l'autre côté de la vitre, les gagnants de la transition numérique nous observent du coin de l'œil, tous un MacBook dernier cri à la main. Dans un texte qui a un peu circulé ces derniers mois et donné lieu à un témoignage dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, Jules Salé, c'est son nom, raconte son expérience dans une start-up française de livraison. L'ordinateur en guise de patron, la lutte pour obtenir une course ou deux et les semaines à 60 euros. Alors si l'on est à peu près tous conscients aujourd'hui des conditions dans lesquelles les livreurs répondent aux besoins d'urbains pressés et parfois peu scrupuleux, on sait moins comment imposer des règles aux plateformes qui les font travailler sans être leur employeur. Ces auto-entrepreneurs sont par ailleurs par définition très seuls pour se défendre, alors faut-il faire dérailler le modèle Deliveroo ? Nous recevons trois invités pour en parler et pour en débattre. Bonsoir Kevin Mention.
Bonsoir.
Vous êtes avocat en droit fiscal, droit du travail et droit du dommage corporel et vous défendez entre autres des livreurs autonomes, c'est comme ça qu'on dit, dans leur contentieux avec les plateformes. Vous avez combien de dossiers en cours ?
Plus de 200 aujourd'hui.
Plus de 200, donc tous des livreurs qui vous ont contacté, qui sont venus à vous, qui ont fait la démarche.
Exactement, toutes plateformes confondues.
Voilà, vous battez avec eux, notamment pour certains d'entre eux, pour que leur statut soit requalifié, qu'ils passent d'auto-entrepreneur à salarié, ce qui fera débat avec vous. Hervé Novelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et au PME, et vous avez été à l'origine de la mise en place du statut d'auto-entrepreneur en 2009. À l'époque, on parlait de faciliter la création d'entreprises et de redynamiser le marché du travail. Et nous aurons aussi dans cette émission le regard de l'historien que je remercie et salue. Bonsoir Sylvain Boulouk.
Bonsoir.
Donc historien et enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre, spécialiste notamment du syndicalisme. Alors pour commencer cette émission, je m'adresse à vous, Hervé Novelli. Quand vous avez imaginé ce statut d'auto-entrepreneur en 2007-2008, enfin jusqu'à ce que ça, tout ça entre en vigueur en 2009, est-ce que vous aviez imaginé que peu de temps plus tard, de gigantesques plateformes numériques allaient s'en servir pour nourrir un nouveau modèle d'entreprise, un nouveau modèle social ?
Non, pas du tout. Lorsque j'ai commencé à travailler sur... quand j'ai été nommé au gouvernement, j'avais une idée qui était l'idée de la simplification. Je voulais simplifier... la création d'entreprises, la création d'activités et simplifier en fait tous les stades de développement des entreprises. Et j'ai fait travailler un certain nombre de groupes qui comportaient des chefs d'entreprise, des experts comptables, des avocats, des juristes.
Et, mais pas de plateforme numérique à l'époque,
non,
elle
n'existait pas. Et donc tous... ces groupes de travail ont tous mis en rang numéro un, en priorité numéro un, la simplification de la création d'activités. Et donc c'est de cela qu'est né le statut d'auto-entrepreneur qui a tout de suite rencontré un grand succès. J'en ai été moi-même assez surpris. Il y avait vraiment un engouement qui tenait au fait que c'était très simple, qu'on pouvait se lancer sans risquer grand-chose, puisque pas de chiffre d'affaires, pas de charge. Donc, il n'y avait rien qui pouvait freiner cet engouement. Beaucoup de gens ont voulu sauter le pas. C'est ce qui a amené à ce grand succès. Mais c'était juste avant que n'intervienne ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est-à-dire la capacité à croiser l'offre et à la demande à travers des applications, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Mais ce statut, évidemment, a connu un grand succès, amplifié par ces plateformes, les VTC, que j'ai créé aussi.
Que vous avez créé. C'est vous qui l'avez créé alors qu'Uber n'existait pas. Donc on peut avoir deux lectures, Hervé Novelli. Soit vous avez été un précurseur en ce sens que vous avez anticipé quel serait le modèle de l'économie française 10 ans plus tard. Soit vous avez provoqué la fragmentation et la précarisation de cette économie. Qu'est-ce que vous en dites 10 ans plus tard?
Je prends évidemment la première option. Parce que d'abord, ça a créé beaucoup d'activités. Vous savez que le chiffre d'affaires En 2018, de l'ensemble des auto-entrepreneurs, il y en a 1,3 million environ qui déclarent du chiffre d'affaires, c'est 12 milliards. 12 milliards d'euros, c'est une sorte d'entreprise qui serait née en 2009 et qui aurait atteint, 10 ans après, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça fait rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses de la Sécu. Contrairement à ce qu'on m'avait dit, ça allait ruiner la sécurité sociale, rien de tel.
Là, 1,3 million auto-entrepreneurs aujourd'hui, dont un certain nombre ont choisi, alors on peut débattre de la notion de choix, mais en tout cas exercent aujourd'hui le métier de livreur pour des plateformes numériques. Alors Kevin Mention, c'est vrai qu'à l'origine, beaucoup peut-être ont choisi ce statut, un statut qui permet d'avoir des charges réduites, des impôts réduits, qui permet une liberté.
Certains l'ont peut-être choisi. C'est vrai que c'est un statut merveilleux. Faciliter la création d'entreprises, c'est très bien pour l'économie, c'est très bien pour le pays. C'est détourner le droit du travail, par contre, qui est beaucoup plus critiquable. Et aujourd'hui, on voit que ces plateformes utilisent ce statut sur des tâches qui, à l'époque, revenaient exclusivement à des salariés.
Oui, Kevin Mention, le statut de salarié est-il adapté aux livreurs, sachant que c'est une activité qui se fait souvent le soir, la nuit, le dimanche par nature, ce qui sous un statut salarié est contraignant, tout comme le temps partiel qui est parfois aussi une demande ou un choix de ces livreurs qui voudraient concilier peut-être plusieurs activités ou vie privée, vie professionnelle.
Tout à fait, les livreurs le disent, ils sont friands de flexibilité, c'est un fait. Maintenant, on pourrait très bien faire l'inverse, ajouter plus de flexibilité à un statut avec beaucoup de garanties, comme les congés payés, etc., ce qui n'existe pas sur le statut d'auto-entrepreneur, quand il s'agit d'avoir une activité qui relève en général du salariat.
Alors, l'historien que vous êtes, Sylvain Boulouk, peut-être que cela vous rappelle, parce que quand on parle du statut d'auto-entrepreneur et de ces livreurs de chez Deliveroo, on ne sait pas trop si on parle des conditions de travail du futur, si c'est ce qui nous attend dans le futur, ou du passé. C'est vrai qu'on se demande un petit peu si dans l'histoire on a pu voir une précarité telle où, oui, quand on parle de travail à la tâche, par exemple, ça vous rappelle quelque chose ?
Le statut pose un double problème, puisque effectivement, actuellement, dans les conditions actuelles d'emploi, vous faites travail de ces livreurs, on est dans une forme de travail à la tâche. Le travail à la tâche, depuis le début du XXe siècle, avait été globalement abandonné, sauf cas exceptionnel, pour une nouvelle forme de salaire, qui était le salariat, qui a été pendant très longtemps le modèle majoritaire, qui reste le modèle majoritaire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui renvoie au passé, c'est justement ce travail à la tâche où alors, ce qui n'était pas des auto-entrepreneurs, mais des employés qui n'avaient pas le statut d'employé non plus, étaient rémunérés non pas selon une modalité de paiement par jour ou par semaine ou par mois, mais étaient rémunérés à la pièce, c'est-à-dire qu'ils étaient payés en fonction des pièces qu'ils avaient pu constituer. Et on retrouvait ce modèle principalement dans l'artisanat et l'industrie textile. Il y a eu une évolution tout au long de la fin du 19e siècle et du 20e siècle pour que justement ce travail à la tâche soit aboli et remplacé par des formes de salariat qui permettent justement et qui garantissent justement aux salariés un salaire moyen mensuel.
Enfin, il y avait un salaire garanti.
Un salaire garanti.
À chaque fois, dans toutes les circonstances ?
Dans toutes les circonstances. C'est les différentes luttes sociales qui, entre la fin du 19e siècle le début du 20e siècle, le milieu du 20e siècle, ont permis justement qu'il y ait un salaire qui soit à peu près le même pour toutes les personnes qui effectuent ce type d'emploi.
Certains s'en sortaient pas trop mal. On cite parfois les canuts à Lyon.
Autre particularité, c'est-à-dire que dans ce salariat à la tâche, on avait différents types de salariés. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de métiers très qualifiés, comme pouvaient l'être les canuts, ou si je prends l'exemple d'un des anciens dirigeants de la CGT, il y a longtemps, au début du XXe siècle, qui s'appelait Victor Griffuels. Si on prend cet exemple-là, lui était bottier. Mais il faisait des bottes de haute qualité et donc il était payé très bien payé pour ces bottes de haute qualité. Inversement, quand vous étiez dans des métiers où la qualité n'était pas la même, la qualité exigée n'était pas la même, vous aviez des salaires nettement inférieurs avec un traitement donc qui était nettement inférieur, et donc le problème du salarié à la tâche se posait non pas pour les métiers très qualifiés, mais pour ce qu'on a appelé en Angleterre le sweet system, donc pour les métiers non qualifiés.
Alors avec pour beaucoup d'entre eux donc un salaire garanti, ce qui est loin d'être le cas, Hervé Novelli, pour ces plateformes de livraison qui non seulement ne garantissent pas de salaire en cas de, s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de revenus, mais en plus baissent les salaires en cours de route. C'est-à-dire que là, début août, Deliveroo a annoncé à ses livreurs, et paraît-il que c'était une demande des livreurs, que le tarif des courses les plus courtes allait réduire, mais qu'il allait augmenter pour les plus longues. Or, les livreurs de dire que ce sont les courses les plus courtes qui les rémunèrent.
Vous avez raison dans
la
constatation, mais il faut vraiment être clair sur les mots. Ce ne sont pas des salaires.
Les revenus.
On n'est pas dans un mode salarial. Et donc, il faut faire très attention. Moi, je crois vraiment que le salariat a correspondu à un certain stade d'avancement de l'économie. C'est-à-dire que lorsqu'est né le salariat, il est né en même temps que les grandes concentrations ouvrières, les usines, le travail posté, les horaires. Et donc, ça renvoie à toute une histoire qui s'est déroulée depuis la fin du 19e siècle jusque durant tout le 20e, et qui est l'histoire de l'industrialisation. Aujourd'hui, on est dans une société de services. Toutes les entreprises, toutes les sociétés qui évoluent passent dans des sociétés de services. C'est le cas en France, où 85% des salariés sont dans les sociétés de services, des emplois sont dans la société de services. Or, le service, il n'est pas un travail à la tâche. Il n'est pas un travail posté. Il est un travail où on vous demande de remplir un service, de rendre un service contre une prestation. Vous faites une prestation.
Et ça, c'est pas compatible avec le salariat.
C'est difficilement compatible avec le salariat. Vous avez pris un exemple. Vous avez pris l'exemple du travail des livreurs. Et vous avez dit, justement, le salariat, c'est difficile de l'effectuer dans des tâches de nuit, aléatoires, de manière aléatoire. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas tout à fait en phase avec le salariat. Donc, il n'est pas étonnant que se développe une autre forme d'activité, un retour au travail indépendant dont on pensait qu'il allait disparaître. Au contraire, il revient en force du fait de la société de services que l'on connaît et du fait de la digitalisation de l'économie.
Mais avant que Kevin Mancion nous donne des exemples concrets, puisque plus de 200 dossiers sont instruits par ses soins pour l'instant, donc il a des exemples concrets à nous donner, mais Hervé Novelli, je vous repose la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est parce que le salariat ne correspond plus aux besoins de l'économie qu'on se tourne vers le statut d'auto-entrepreneur, ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui 1 300 000 personnes ont opté pour ce statut que le marché de l'emploi s'est à ce point fragmenté aujourd'hui et précarisé?
Non, je crois vraiment qu'on est dans un autre stade de l'économie. Tout le monde le dit. Quand on parle de révolution numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable, ce dont ont rêvé tous les économistes, on est capable de faire se rencontrer une offre et une demande de manière instantanée, et c'est ça qui explique l'essor des plateformes qui font cette rencontre. On en a rêvé, les économistes classiques ont rêvé de la rencontre entre l'offre et la demande. La révolution numérique permet de le faire, et c'est pour cela qu'il ne faut pas la combattre, mais il faut l'accompagner et donner, bien sûr, des protections qui aujourd'hui sont embryonnaires, des protections à ces travailleurs indépendants. Il ne s'agit pas de revenir au 19e siècle, il s'agit d'affronter le 21e siècle. On n'est plus dans une économie où il n'y avait que le salarié d'un côté, les bons salariés et les mauvais patrons par définition.
La loi de l'offre et la demande, dites-vous, le mantra des économistes, ils en ont rêvé, nous dites-vous, Hervé Novelli. Les livreurs, eux, n'en ont pas rêvé du tout, parce que Kevin Mancion, si je comprends bien le système de ces plateformes, c'est que plus il y a d'inscrits, donc de livreurs sur le marché, et ces plateformes ouvrent leurs vannes de façon, enfin, il n'y a aucun quota de salariés, donc, et plus ils se battent pour obtenir une maigre course et en faire peut-être 4 dans la journée, et donc faire des journées à très, très peu tarifs et très peu payés. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage là-dessus de vos clients?
Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a absolument pas d'offres et de demandes sur ce système-là, parce que les jeux sont faussés, c'est-à-dire qu'on met énormément de personnes à travailler en même temps 100 au même endroit, des personnes qui sont précaires, qui sont souvent à la recherche d'un emploi avant de travailler pour ces plateformes. Et puis on leur dit, voilà, vous allez avoir une course à 3 euros. Mais ils n'ont pas vraiment le choix, si vous voulez. S'ils veulent payer leur loyer à la fin du mois, ils doivent l'accepter. Et s'ils ne l'acceptent pas, cette course, c'est un autre livreur qui va l'accepter à leur place.
Ils n'ont pas un droit de refus. Ils peuvent pas. Pour l'instant, il n'y a aucune charte qui leur donne le droit de refuser sans être pénalisé derrière. Donc on ne sait pas ce qui se passe.
Ah si, bien sûr, si vous voulez, il y a eu ce droit de refus de course qui a été mis petit à petit en place par les plateformes. Ce n'était pas le cas au début. Aujourd'hui, c'est le plus souvent le cas. Malheureusement, s'ils refusent la course, ils ne sont pas payés. Donc ils rentrent chez eux sans aucun salaire.
Et est-ce que certains sont venus vous voir depuis que Deliveroo et peut-être d'autres plateformes ont annoncé baisser leurs tarifs?
Bien sûr.
Avec quel impact encore ce matin?
Oui, des livreurs qui viennent nous voir en nous disant oui, alors on nous dit qu'il y a eu un changement de rémunération, que ça va rester stable pour nous au final, parce que les petites courses sur lesquelles il n'y a plus ce minimum de 4,70 € par course vont être compensées par des meilleures rémunérations sur des courses plus longues. Mais déjà, les courses plus longues, c'est plus de fatigue, plus de risques aussi sur la route. Et on voit beaucoup de cas d'accidents de la route, des personnes qui sont encore aujourd'hui entre la vie et la mort pour avoir livré, pour Deliveroo, pour Uber Eats, etc. Et puis, c'est facile à dire qu'ils seront payés plus en moyenne parce que on est sur un flou artistique total sur ces chiffres. Les calculs, ils viennent de Deliveroo et c'est facile de dire qu'ils vont gagner plus alors qu'on refuse en plus de donner le détail du calcul de cette rémunération. C'est Deliveroo, c'est Uber Eats qui impose un tarif. C'est pas du tout négocié, il n'y a pas d'offre et de demande. Ils l'imposent et les coursiers sont obligés d'accepter parce que sinon, à la fin du mois, tout simplement, ils n'ont pas de salaire.
Sylvain Boulouk.
Pas de rémunération. Oui.
Pas de rémunération, voilà, employons les mots justes. Oui. Sylvain Boulouk, une entreprise. Alors, j'allais dire encore un employeur qui décide de baisser les salaires, mais ce n'est, on n'est pas dans ce cas de figure. C'est une plateforme qui baisse les tarifs, mais est-ce que dans l'histoire du travail, du salariat, ça se voit? On le voit, des employeurs qui peuvent baisser les salaires temporairement.
Alors, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, je vais remonter chronologiquement. C'est-à-dire que depuis les 30 Glorieuses, il y avait eu très peu de baisses de salaire, excepté ces dernières années, en raison de crises économiques qui peuvent toucher certaines entreprises. Si on remonte plus avant dans le temps, l'histoire des grandes diminutions de salaire, ça a été au moment de la grande crise des années 30, où là, effectivement, un certain nombre d'entreprises baissaient de manière relativement importante. Ça pouvait de 20 à 30% les salaires, en disant, si on baisse pas les salaires, on risque de fermer.
On met la clé sous la porte et à la fin, tout le monde est perdant.
Après, ça donnait quand même en réponse un certain nombre de grèves et de luttes sociales qui tentaient de mesurer, enfin, de limiter cette diminution de salaire qui a existé dans la France. Si on prend juste l'exemple français, entre 1931 et 1934-35, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont diminué globalement leur salaire qui ont fait diminuer les salaires de 20 à 30%. Cela étant, c'était un modèle qui était particulier à la crise. Si on remonte plutôt dans le temps, les diminutions de salaire dans ce type d'entreprise qui est payée à la tâche, à chaque fois qu'elles ont eu lieu, il y en a eu notamment, on peut penser à la grève des casquetiers en 1910-1911 où il y a eu ces diminutions de salaire, il y avait en face des organisations syndicales où l'ensemble des salariés tentaient de répondre et répondaient plutôt victorieusement en imposant des conditions de travail et un travail ce travail à la pièce qui était rémunéré de manière fixe et qui était imposé sous peine d'absence complète de production. Je termine sur un dernier point. Il y a un auteur qui avait fait une thèse en histoire du droit en 1909, qui était un des compagnons de route de la CGT, qui s'appelait Maxime Leroy, qui publie à cette période-là, enfin en 1909, qui publie sa thèse qui s'appelle « La coutume ouvrière ». Et dans cette coutume ouvrière, il explique dans les modes d'action actuellement, le refus du travail à la pièce est quelque chose de très important.
Dans les modes d'action, vous voulez dire pour
empêcher justement que les salariés soient livrés à eux-mêmes. Alors on était dans un autre modèle économique que celui qu'il y a aujourd'hui, mais il y avait vraiment une volonté de la part des différents acteurs sociaux d'empêcher ce travail à la pièce parce que justement il y avait un risque d'individualisation et de division division dans les salaires et de division entre les personnes qui effectuent un même travail.
Ce qui est le cas aujourd'hui chez ces livreurs. Mais Hervé Novelli, sur la question des tarifs qui diminuent, on est face quand même à des plateformes qui ne sont pas pour l'instant à plaindre, qui sont en pleine croissance, qui peut-être font déjà, j'ignore les chiffres, je ne sais pas si vous les avez mieux que moi, mais du chiffre d'affaires.
Oui, beaucoup de chiffre d'affaires.
Beaucoup de chiffre d'affaires.
Pas forcément de profit, du reste.
Pas de profit. Est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce que peut le politique, qu'est-ce que peut l'État
face à... L'État peut beaucoup. L'État, le politique peut agir. Lorsque j'ai créé le statut, c'était une démarche législative. Il y a eu un projet de loi, on a créé le statut d'auto-entrepreneur, les VTC de la même manière. Et je voudrais dire que on déifie à nouveau le salariat, comme si le salariat était la position la plus fantastique. Est-ce qu'on regarde ce qui se passe sur le marché du travail ? Est-ce qu'on regarde le fait que aujourd'hui sur le marché du travail, vous avez une société duale, des contrats à durée indéterminée d'un côté, qui forment 80% du stock, mais 80% en CDD aujourd'hui. Donc le salariat ne protège pas contre la précarité. Ce qu'il faut faire, et ce que je ferais si j'étais en charge de ce dossier, il faut réunir, faire en sorte que les livreurs puissent négocier. Et donc ça veut dire qu'il faut une organisation qui se crée, d'un côté, de ces prestataires, et de l'autre côté, une organisation des plateformes pour que celles-ci chassent les mauvaises pratiques et fassent en sorte que les bonnes pratiques soient installées. La fédération, l'organisation professionnelle des plateformes numériques me semble devoir être à l'ordre du jour dans les semaines et les mois qui viennent. De la même manière, une organisation livreurs ou des auto-entrepreneurs qui sont dans le métier des transports doivent s'organiser.
Kevin Mention, est-ce qu'on peut imaginer que les livreurs élisent ou désignent des représentants ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des élections professionnelles, comme dit par exemple en souhaité le député La République En Marche Aurélien Taché, qui travaille entre autres sur le projet de loi mobilité là, qui doit à nouveau passer devant le Parlement à la rentrée, où il est question de ce statut des livreurs. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer créer un collectif et des représentants de ces livreurs ?
Bien sûr, c'est possible et c'est même souhaitable. Le problème, c'est qu'il y a une énorme contradiction. On dit qu'il s'agit d'indépendants. Donc, s'ils commencent à se regrouper en syndicats, etc., on nie leur indépendance. Ils sont censés être en concurrence sur ce statut. Ce sont des entrepreneurs indépendants.
Et
ils
pourtant,
sont censés fixer leurs tarifs, les négocier. Aujourd'hui, l'offre et la demande, c'est la plateforme. C'est pas l'entrepreneur qui propose un prix ou quoi que ce soit.
Donc, ils sont en concurrence entre eux. Et vous, Sylvain Bouc,
la Fédération nationale des auto-entrepreneurs qui existe. Vous avez l'Union des auto-entrepreneurs. Vous voyez bien qu'on peut se constituer en association pour défendre les auto-entrepreneurs. Par exemple, demander des protections améliorées comme ça devrait être le cas. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait contradiction. Simplement, il faut nouer le dialogue et il faut qu'il y ait donc une fédération d'un côté des plateformes et de l'autre une organisation
des livreurs. Sylvain Bouloc.
Ce qui est étonnant dans votre échange, c'est qu'on en revient à la situation. Alors, je ne dis pas que les conditions de travail soient les mêmes qu'au 19e siècle, mais à la situation du 19e siècle où il a fallu un rapport de force entre, alors, non pas des salariés, mais des personnes qui travaillaient aux pièces et des entrepreneurs pour obtenir des conditions de travail. Et on est pour une amélioration des conditions de travail. Et on est exactement dans cette même situation aujourd'hui, à savoir des gens qui n'ont pas de statut réellement, puisqu'ils sont qui ont un statut d'auto-entrepreneur, mais qui n'ont pas de statut par rapport à la tâche qu'ils exercent. Et de l'autre côté, des entrepreneurs ou des plateformes qui décident, comme elles l'entendent, plus ou moins du salaire tâche qu'elles proposent.
Ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a un nouveau monde à inventer.
Oui, mais
il ne faut pas l'empêcher de naître.
Ce nouveau monde à inventer, il ressemble quand même furieusement pour un certain nombre de choses au monde qui a existé au 19e siècle.
Bah,
rapidement
siècle,
et Kevin Monton ensuite.
On était à un état donné des forces productives. Je peux faire mon marxisme de bazar, mais c'est quand même ça la réalité. Ensuite sont intervenues les grandes entreprises, la création des grandes concentrations et donc le salariat qui vient dans l'esprit de ceux qui ont fait le contrat de travail. Lutter contre la subordination et l'infériorité du salarié par rapport au patron. Aujourd'hui, il s'agit de bâtir quelque chose qui me semble être beaucoup plus intéressant, qui est l'équilibre et faire en sorte que à la protection améliorée des auto-entrepreneurs corresponde une nouvelle économie qui, quoi qu'il arrive, s'installera, comme on le voit partout dans le monde.
Alors, pour bien qu'on comprenne de quoi on parle, Kevin Manchon, aujourd'hui, les livreurs de repas à vélo ne dépendent pas du code du travail, ils dépendent de quoi ?
Du code du commerce. Exactement,
donc,
prestataires.
Donc, quelles sont leurs protections ?
On les appelle prestataires, mais aujourd'hui, ce sont des travailleurs jetables, si vous voulez. C'est parce que aujourd'hui, on leur impose ce statut pour travailler avec ces plateformes. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et puis, si du jour au lendemain, la plateforme décide, par exemple, de fermer, comme c'est le cas en Allemagne, 4 jours plus tard, on leur dit au revoir, c'est terminé.
12 000 livreurs sur le carreau.
Exactement. Par contre, dans les conditions de travail, on les emploie comme des salariés. C'est là où il y a une contradiction énorme, parce qu'on prend tous les avantages d'un côté et on leur laisse tous les inconvénients de l'autre.
C'est-à-dire quand vous instruisez des dossiers individuels et que vous allez en justice pour faire requalifier ces contrats en CDD ou CDI, puisque certains vous le demandent, pas tous j'imagine, certains veulent garder leur liberté d'auto-entrepreneur, mais comment vous justifiez ou comment la justice, parce qu'il y a déjà eu des décisions de justice en ce sens, témoigne de ce lien de subordination, prouve ce lien de subordination qui peut exister entre des auto-entrepreneurs et ces plateformes.
C'est ça, aujourd'hui les textes de loi et la justice le vérifie, nous disent qu'à partir du moment où il y a un lien de subordination, c'est-à-dire que la plateforme se comporte comme un employeur, alors elle doit déclarer cet employé, les employés, les coursiers qui sont employés, comme des salariés.
Mais en quoi elle se comporte comme un employeur ? C'est quoi les indices ? À part peut-être vestimentaire, Deliveroo, ils ont tous, je crois pas qu'ils soient obligés de le porter, mais c'est
pour aujourd'hui, ça a changé. À une époque, c'était obligatoire, c'était contrôlé et c'était même sanctionné. Il y avait des sanctions financières et il y avait des ruptures de contrat pour non-port de la tenue. Aujourd'hui, justement, face à ces menaces de requalification en contrat de travail, Deliveroo a changé sa politique et a dit du jour au lendemain, bon, maintenant, c'est plus obligatoire.
Ça aurait pu être un indice de salariat.
Exactement.
Mais par ailleurs, un livreur, tout comme un chauffeur de VTC, il peut encore aujourd'hui travailler quand il le souhaite, être actif sur plusieurs plateformes, il peut choisir son itinéraire. Donc, ce lien de subordination est quand même difficile à prouver.
C'est parfois difficile, mais pas tant que ça, si vous voulez. Un exemple tout simple.
Oui, allez-y, attendez, Kevin Manchon.
Alors, cet exemple, c'est celui de Deliveroo. Un livreur leur a posé une question par écrit, en plus, leur demandant s'ils ne pouvaient travailler désormais que durant la semaine pour se réserver à ses activités personnelles le week-end. Sauf qu'il y a des statistiques qui sont tenues par la plateforme et qui laissent de ces statistiques dépendre son accès au calendrier et donc aux possibilités de travailler. Il a eu une réponse noir sur blanc de Deliveroo qui lui disait absolument pas, vous avez le choix de ne pas travailler le week-end, mais si vous ne travaillez pas le week-end, vos statistiques seront impactées. Donc, les semaines suivantes, vous pourrez peut-être travailler plus que 4 heures par semaine.
Donc, c'est quand même du salarié déguisé, Hervé Novelli.
Oui, mais je voudrais indiquer, quand je citais le chiffre d'1 400 000 auto-entrepreneurs, aujourd'hui, dans le secteur des transports, il y a 10% de ces auto-entrepreneurs. Donc, je ne voudrais pas qu'on discrédite le statut d'auto-entrepreneur sous prétexte qu'il y a des difficultés avec un secteur et parfois des abus.
Mais c'est le modèle qui veut ça, non ? Vous pensez qu'on peut avoir conservé ce modèle-là ?
Et des centaines de milliers d'auto-entrepreneurs qui sont très contents, qui ne sont pas forcément dans le secteur des transports, mais il y en a aussi qui sont contents dans le secteur des transports. Et je voudrais rappeler quand même quelque chose.
C'est vrai que là, on se concentre sur les livreurs ce soir.
Oui, vous avez raison d'être concentré sur les livreurs. Moi, je voudrais être concentré sur les banlieues aussi, qui concentrent beaucoup d'auto-entrepreneurs et beaucoup de livreurs. Il y a eu... En quelques années, avec le statut des VTC, il y a eu près de 15 000 à 20 000 emplois non salariés créés dans les banlieues. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Je pose la question, parce que c'est très gentil de discuter
Il n'y a pas eu de politique de la ville, donc...
La réalité, c'est qu'on a offert, et j'en suis très fier, grâce à ce statut, une activité à des gens qui n'en avaient aucune, et qui étaient donc relégués en bas des HLM.
Sylvain Boulouk. Voilà.
Enfin, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a un statut d'auto-entrepreneur qui touche un nombre de personnes très important. Après, dans ces auto-entrepreneurs, il y a un certain nombre d'entreprises ou de plateformes, on les appelle comme on veut, qui profitent de ce statut pour détourner des formes de travail qui sont à la limite du travail salarié. Et là, le principal problème qui semble se poser, qui se posait beaucoup moins au 19e siècle, parce qu'il y avait des formes de défense collective alors c'était pas forcément des salariés, mais des formes de défense collective pour être plus simple, qui ont donné naissance après au mouvement syndical où il y avait un certain nombre de personnes qui se sont dit on va se grouper pour obtenir des garanties, ne serait-ce que sur le prix du travail aux pièces. Aujourd'hui, Et dans la situation actuelle, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, puisque ce sont, quand on regarde les plateformes et les gens qui travaillent pour les plateformes, ce sont principalement des gens qui sont relativement précarisés et qui dépendent réellement des offres qui vont leur être faites et qui sont totalement dépendants de la tâche qu'on leur propose.
C'est un débat très intéressant, Kevin Mention, et notamment parce qu'on entend aujourd'hui les livreurs appeler, certains livreurs, ceux qui se mettent en grève et qui manifestent, je ne sais pas si le mot de grève est adapté d'ailleurs dans le cadre d'auto-entrepreneurs, mais qui manifestent devant la place de la République de temps en temps à Paris et peut-être dans d'autres villes de France parfois, et qui disent, consommateurs, boycottez ces plateformes, comme s'ils voulaient scier la branche sur laquelle ils étaient assises. Et nous, consommateurs, est-ce que nous devons boycotter, par exemple, des plateformes qui fournissent quand même du travail, comme Hervé Novelli le disait, à des personnes qui n'auraient rien. Sans elles?
Oui, ils appellent au boycott parce qu'ils veulent faire réagir la collectivité, hein, l'État, le gouvernement, le Parlement, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix aussi. Parce qu'aujourd'hui, comment vous voulez faire réagir les gens, à part faire des pétitions, une belle pétition sur Internet en 3 jours qui a dépassé les 30 000 signatures en plein été. Donc ils veulent faire réagir la population. Maintenant, on n'attaque pas le statut. C'est un statut qui a beaucoup d'avantages. Créer une entreprise facilement, c'est important. Dans l'économie, on attaque les abus qu'on fait de ce statut. Et on a vu très tôt, avant même les plateformes, que certains employeurs, hein, ça se voit dans la jurisprudence par exemple, donc les décisions de justice qui ont été rendues très tôt après la mise en place de ce statut, des employeurs ont transformé très rapidement des emplois salariés en emplois d'auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs aujourd'hui.
Et puis, y avoir des abus, ça n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, je le pense. Mais ce que je pense aussi, c'est que c'est indispensable aujourd'hui dans l'économie que nous connaissons, que des gens peu qualifiés. Vous savez qu'il y a plus de 20% des jeunes de moins de 30 ans qui sont auto-entrepreneurs. C'est un statut qui plaît à la jeunesse et c'est un statut qui offre des opportunités à des travailleurs non qualifiés. Parce que le vrai problème, il est aussi là. C'est que nous n'avons pas, notre système en France fonctionne de telle manière qu'il exclut du travail beaucoup de gens, et notamment les non qualifiés, pour des raisons qu'on pourrait débattre entre économistes ou ici pendant des heures. Mais c'est une réalité, et le statut de l'auto-entrepreneur a justement permis de faire en sorte que, par sa souplesse, par sa capacité de travailleur indépendant, à trouver une activité à des gens qui n'en auraient pas. C'est ça le sujet. Et parce qu'on ne requalifiera pas, on ne mettra pas tout ce 1 300 000 en salariés. On est dans une société qui vient. On ne doit pas interdire à une société d'émerger comme a émergé la société industrielle.
Kevin Mention, c'est la société fluide, paraît-il.
Et quand vous dites ça, j'ai l'impression encore qu'on inverse le problème, puisque on vous dit ça va donner du travail des travailleurs peu qualifiés, des gens de banlieue, etc. Mais il y a d'autres solutions pour leur trouver des emplois qualifiés. Les former, leur donner un accès total à l'éducation. Aujourd'hui, vous avez des personnes...
en France depuis des décennies. Hein,
vous avez des personnes qui abandonnent leurs études, des jeunes, parfois même des mineurs, pour aller travailler chez Uber. Donc, pour moi, c'est pas une solution. La solution, ça serait de les accompagner dans ces études et de les mener vers des métiers qualifiés.
Sylvain Boulouk, ces jeunes qui se lancent comme ça sur le marché du travail sous ce statut-là, est-ce qu'ils sont attirés, conscient, enfin, par le syndicalisme et par une forme de lutte collective, ne serait-ce que pour obtenir certains droits élémentaires sur lesquels vous êtes quand même tous d'accord ici.
Ça pose comme plusieurs questions. Votre question, ça pose un, le problème du niveau de formation de ces jeunes qui travaillent, parce que justement toute la question de l'histoire sociale, de l'histoire des conflits entre, je prends une formule un peu provocatrice, capital et travail, est existante, mais ils n'en ont pas forcément conscience, donc ils savent pas forcément qu'il y a pu y avoir des luttes sociales. Ils découvrent un salaire qu'on leur propose, donc ils l'acceptent.
Des tarifs.
Des prestations qu'on leur propose. Ils l'acceptent parce qu'ils ne sont pas forcément conscients des enjeux collectifs qu'il peut y avoir derrière. Donc ça pose un autre problème, c'est plus au monde enseignant, c'est le problème de la formation qu'il faut donner à ces salariés. Et dernière chose sur leur lutte actuellement, quand on regarde la forme de mobilisation qu'a trouvé une minorité, c'est l'appel aux autres citoyens pour relayer les problèmes sociaux qui peuvent exister. Donc on est dans, puisque eux ne peuvent pas faire grand chose en tant qu'auto-entrepreneurs, il faut qu'ils appellent à des des médiations par des systèmes de boycott parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens actuellement de faire pression sur leur...
Organisons ce débat.
J'avoue que la question du boycott m'intéresse particulièrement aussi parce que dans des grandes villes urbaines, on a beaucoup de jeunes urbains pleins de bons sentiments et qui voilà, ne trouvent aucun rien à redire quand ils ont faim et qu'ils veulent manger une salade de carottes râpées aux pistaches et à je ne sais quoi, de prendre leur téléphone et de demander voilà, qu'on leur livre ça, sans savoir peut-être, je ne sais pas dans quelles conditions les livreurs viennent les porter, mais on peut quand même peut-être se passer de livraison et prendre ses deux jambes et aller s'acheter un sandwich en bas de la rue. Donc Kevin Mention, la question du boycott, vous qui les côtoyez tous les jours, ces livreurs-là, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne solution et une manière de leur rendre service ou au contraire, on leur tire une balle dans le pied?
C'est une solution pour se faire entendre. Après, ces nouveaux services, ça a de très bons côtés. Hein. La livraison en un temps record, etc. C'est une tendance et puis ça a du bon. Hein. Ça peut permettre aussi aux personnes qui commandent de se consacrer eux-mêmes à leur activité de manière plus simple et développer l'économie comme ça. Mais on en a besoin, mais pas dans n'importe quelle condition. Et aujourd'hui, ils profitent de ce statut pour payer moins leurs travailleurs.
D'où cette loi d'orientation des mobilités qui doit être débattu à la rentrée au Parlement et cet amendement 20 c'est l'article 20 qui fait débat. Une députée, La République En Marche, Bérangère Couillard, a déposé un amendement qui fait aussi l'objet d'un débat. Elle le réclame, un droit à la déconnexion, un droit à connaître le prix minimum garanti avant d'accepter une course ou de la refuser. Enfin, est-ce que tout ça vous paraît intéressant, cosmétique, Kevin Mention? Est-ce qu'on passe à côté de l'essentiel ou pas?
Cosmétique, vous avez trouvé le mot. Déjà, c'est incroyable qu'il faille marquer dans une loi que la plateforme a l'obligation de donner le prix de la course aux travailleurs. Ça me paraît totalement aberrant. On parle de jeu de l'offre et la demande, mais vous voyez...
Sauf que là, ce sont des calculs qui dépassent peut-être la plateforme elle-même, ce sont des algorithmes...
C'est-à-dire que le coursier recevait une course sur son téléphone, devait l'accepter ou la refuser sans savoir combien il serait payé.
D'accord. Hervé Novelli.
Je crois que ça, c'est du cosmétique. Ce qu'il faut, c'est organiser le dialogue. C'est pas à la loi de fixer tout et n'importe quoi. Parce que la loi, elle sera contournée, quoi qu'il arrive. Donc il faut organiser un dialogue pour éviter les abus. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'il y ait une fédération, une organisation professionnelle des plateformes qui se crée, qui soit elle-même la garante de bonnes pratiques, qui chasse les mauvaises pratiques d'un
côté. Mais quel genre de bonnes pratiques, alors?
Ben justement, d'éviter qu'il y ait des mauvaises pratiques qui soit faite, c'est-à-dire que des livreurs se trouvent dans des situations qui ne sont pas les situations de travail indépendant. Voilà. Même s'ils sont économiquement semi-dépendants, ils doivent assumer ce statut qui est un statut d'indépendant. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum de droits qui soient attachés à cette indépendance. Et ça se passe par la négociation. Ça ne peut pas être passé par la loi. Et je voudrais dire quelque chose que je pense profondément sur les plateformes. C'est pas une, deux ou dix plateformes qu'il va y avoir. C'est des centaines et des milliers. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une société qui est une société de plateformisation. C'est pas moi qui l'ai décidé ni décrété. Le statut, je vous l'ai dit au début de l'émission, il a été amplifié par la révolution numérique. Et donc, on va assister à la naissance et à l'émergence de plateformes parce qu'elles permettent justement ce croisement dont je parlais tout à l'heure, entre offre et demande. Il faut réguler, codifier, faire en sorte qu'il y ait des droits qui s'attachent à cette nouvelle forme d'économie, mais on assistera à cela dans les années et dans les décennies qui viennent, et donc c'est à nous de l'organiser, et il ne faut pas l'empêcher, parce que l'empêcher, on n'empêche jamais une révolution technologique de produire des effets. Donc il faut s'emparer de ce sujet, et s'en emparer sérieusement, et non pas au détour d'une loi, à travers un article qui ne réglera pas le problème.
Sylvain Boulouk ?
Oui, alors, il y a plusieurs problèmes. C'est toujours au regard du passé que je peux parler. Dans la société pré-industrielle qui s'est construite, il y a une première dimension qui était une question de rapport de force qui s'appuyait, qui était sur la relation entre salariés et employeurs. Donc on n'est plus exactement dans la même configuration, mais cette dimension est toujours présente. La deuxième chose sur laquelle je reviens, c'était la question du boycott. Il y avait autre chose qui pouvait exister à un moment, qui a existé dans les premiers temps du syndicalisme, qui était que la principale centrale syndicale en France boycottait les entreprises entreprises qui ne respectaient pas un certain nombre de droits du travail, enfin de droits qui ne respectaient pas le droit du travail ou laissant les balbutiements du droit du travail. Et deuxième chose, cette centrale demandait également aux citoyens de participer à ce boycott. Et donc d'empêcher qu'il n'y ait pas de respect des salariés. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans le cas du salariat, mais à partir de ce moment-là, il y a peut-être dans le passé, ça veut dire qu'il faut avoir regardé le passé aussi, il y a peut-être des moyens de retrouver des modèles qui permettraient de réguler ces conflits.
Kevin Mention, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez un intérêt des plateformes syndicales pour ces auto-entrepreneurs? La CFDT s'est emparée du sujet, la CGT aussi, enfin, vous êtes en contact aussi avec eux.
Oui, il y a des collectifs, il y a des syndicats qui existent déjà, il y en a d'autres qui peuvent se créer, bien sûr.
Oui.
Et est-ce qu'il faut créer un régime de protection sociale à part pour ces livreurs? Hervé Novelli, non?
Non, je ne le crois pas, parce que je pense qu'on est face à un problème général, qui est l'émergence du travail indépendant et la nouvelle actualité que la révolution numérique apporte au XXIe siècle, au travail indépendant, qui se développe partout dans le monde. Je pense qu'il faut avoir des règles générales pour cela. Si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire si on assiste à une généralisation de la plateformisation de l'économie, eh bien, il faut donc des règles générales pour faire en sorte que les protections qui ont été celles des salariés dans la relation salariat-entrepreneur du XXe siècle, il faut trouver des protections qui fassent que le travailleur indépendant puisse avoir des droits qui lui permettent d'exercer son activité comme il le souhaite.
Alors je vous cite quand même le président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs qui dit lui-même que lorsque ce régime a été créé, donc par vous Hervé Novelli en 2009, c'était pour faire face à la crise. On était juste après la crise de 2008. Depuis, les choses ne sont pas vraiment arrangées. Le succès de l'auto-entrepreneur, dit-il, c'est aussi le signe d'un pays qui va mal, où il est plus difficile d'embaucher en CDI et où des formes d'emploi pas toujours souhaitées apparaissent.
Oui, je pense qu'il a tort. Je pense que c'est le signe que des jeunes qui n'ont ou des personnes qui n'ont pas soit des revenus suffisants, soit d'emploi, se retroussent les manches pour, à travers ce statut, trouver une activité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donner des droits supplémentaires que moi j'avais intégrés dans le statut d'auto-entrepreneur, mais qui étaient des droits qui n'étaient pas optimaux. Si j'ose dire. Donc maintenant, il faut le faire parce que ça se généralise. Et je crois que le salariat, dans les années qui viennent, devra coexister avec cette émergence. Il y a aujourd'hui, on pense, 12% de travailleurs indépendants non salariés dans notre pays. Je pense que ça augmentera. Et tant que nous n'aurons pas, à travers le salariat, réglé le problème de tous ceux qui souhaitent un emploi, cette forme d'activité va se développer et je pense qu'elle correspond aussi à l'émergence d'une nouvelle économie.
Kevin Mention, vous risquez d'avoir du pain sur la planche toutes ces prochaines années. Alors vous allez travailler spécifiquement avec ces auto-entrepreneurs-là, c'est-à-dire les livreurs qui sont une engeance particulière des auto-entrepreneurs.
Peut-être pas, mais cette généralisation annoncée, elle fait peur parce que c'est un nivellement vers
le
bas.
Elle fait peur aujourd'hui. Si on ne bouge pas. Elle fait peur si on ne fait rien et si on se contente de regarder le passé et de dire « tous ces gens-là, on va les requalifier ». Mais ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas requalifiables, parce qu'ils sont vraiment indépendants. Le problème se pose pour telle ou telle plateforme, mais pour le reste, ces travailleurs indépendants dont je parle, ils sont 1 400 000.
Ça se passe pour telle et telle plateforme, comme vous dites, mais vous dites en même temps, il ne va y avoir que des plateformes à l'avenir.
Oui, en tout cas beaucoup plus. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait un droit correspondant qui émerge, qui n'est pas le droit salarial.
Avec quand même, Sylvain Boulouk, un modèle de la plateforme qui est quand même un modèle agile, comme disent les économistes, qui peut permettre une souplesse, qui peut permettre une flexibilité, mais encore faut-il qu'elle respecte ces...
En même temps, normalement, dans le travail, il y a aussi une question de droit social et de respect d'un certain nombre de règles sociales. Alors après, il peut y avoir des innovations, mais le retour par le passé peut être un moyen quand même de rappeler un certain nombre de règles qui ont prévalu jusqu'à maintenant.
Eh bien, merci merci d'être venu nous les rappeler. Sylvain Boulouk, historien et enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste notamment du syndicalisme, du communisme, de l'anarchisme et de l'extrême-gauche. Merci à vous, Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et au PME, d'avoir été avec nous. Ainsi qu'à vous, Kevin Mention, avocat en droit fiscal et droit du travail. Merci à vous trois et merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été. Stéphanie Villeneuve, Aliette Ovine, Léa Capuano, Valentin Berg et Roxane Poulain. L'émission a été réalisée par Laure Chastan ce soir et Milena Elig avec à la prise de son Pierrick Monsigny.